France Inter. Bienvenue dans l'humour d'Inter, l'hebdo. Chaque samedi, je vous prépare une sélection des chroniques humour de la semaine. Mais puisque samedi dernier, il n'y avait pas d'émission, bah c'est carrément le meilleur des 15 derniers jours. Donc là, voilà, c'est un festival finalement, cette émission. Et justement, aujourd'hui, vous allez entendre Rosa Bershteyn nous annoncer délicatement sa grossesse.
Ça fait 3 mois et demi, voilà pourquoi je sentais le vomi. Pas uniquement parce que je m'habille en friperie.
Bertrand Chameroy est notre envoyé spécial aux États-Unis pour suivre son politique préféré.
Please welcome Jean-Luc.
Wow, Jean-Luc from the Republic, it's me.
Et puis, mauvaise nouvelle, constat terrible, Mélodie Fontaine vieillit.
Quand j'étais plus jeune, je me mettais des petits points de crème sur les pas de doigts, là, au bord des yeux, mais là, c'est plus des pas de doigts, c'est des empreintes de dino. Donc...
Et puis, nous ferons un petit détour par les années 60 pour écouter des statistiques très précises dans la chronique d'Anne Alexandre et André Gilles.
À votre avis, qui a découvert l'Amérique?
D'après le dernier sondage effectué dans les écoles de 3 départements du Sud-Ouest, c'est Maurice Chevalier. Et en 2e position, ex aequo, Marco Polo, Lafayette et Marlon Brando.
Voilà, très 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 précise. Et puis pour écouter tout ça en bonne compagnie, bah j'invite un copain. Voilà, un des chroniqueurs réguliers de la chaîne, c'est Bruno Pecky, que vous entendez chaque semaine dans l'émission de Nagui et Leïla Kadour. Il est avec moi aujourd'hui, alors je vais vous le présenter rapidement, c'est un ancien pongiste. Il se lance dans l'humour après un travail de fin d'études à l'école, et puis il est repéré par le Montreux Comédie Festival dont il gagne le concours. Il fait aussi ses armes au Caustic Comedy Club à Carouge en Suisse, et puis évidemment sur les réseaux sociaux avec le média Tataki, où il fait des caméras cachées. Et puis évidemment, il est aussi comédien dans la série pas du tout rigolote Daily Mineur, ça c'est également en Suisse. Il joue actuellement son spectacle à la Petite Loge. Bref, Bruno Pecky, c'est l'humoriste qui monte suisse. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un humoriste suisse qui monte, et en ce moment c'est lui. Il est là avec moi. Bonjour Bruno Pecky.
Bonjour Marine.
Ça va?
Ça va et toi?
T'as passé une très bonne semaine?
Excellente, et elle se termine de la meilleure des manières.
Allez, franchement c'est... Je rougis, je il me flatte.
Non, c'est parce que j'ai un repas demain qui vraiment... C'est pas du tout pour l'émission.
C'est vrai, ça n'a rien à voir avec moi. Bon, tant pis. En tout cas, vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo. Bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter, l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
Cette semaine, le pape est mort. Alors, les chrétiens du monde entier pleurent sa mort, et moi, ben moi, je crois pas vraiment en Dieu. Voilà. Enfin, quand on me pose la question, je dis pas ça, je dis que je suis agnostique, c'est-à-dire que je dis que je ne sais pas si Dieu existe. Mais en réalité, je sais très bien qu'il n'existe pas, c'est juste au cas où il existe et qu'il est un petit peu susceptible. Bon, voilà, j'assure mes arrières. Bref, le pape est mort, alors Abemus, peut-être plus de papam, mais heureusement, Abemus, Amandine Lourdel, et c'était dans la matinale, mardi.
Salut à tous. Lundi, j'ai fait une chronique en blasphémant un peu sur l'histoire d'un gars canonisé, et juste après, le pape est mort. Et pas que je sois superstitieuse, mais je vais quand même éviter de me réfugier sous un arbre au prochain orage. Chez moi, on a tous été baptisés, et j'ai un souvenir très net de mon baptême, je vomis sur la table des adultes après avoir bu trop de jus d'orange. Exactement le même souvenir qu'au mariage de mon frère, la vodka en plus. Et que là, c'était sur la table des enfants. On se refait pas. Quand j'étais petite, j'avais hâte d'aller au catéchisme parce que pour moi, c'était un truc de grand comme la dépression ou les agios. J'avais même envie de rentrer chez les scouts parce que mon frère y était. Malgré une légère mésentente de mes parents sur le sujet, parce que mon père estimait que l'inscrire au scout n'allait rien lui apprendre à part, je cite, chier dans les bois et devenir pédé. Ce qui n'est pas totalement vrai parce que mon frère est hétéro, même s'il adore les brunchs, et n'a pas d'acquaintance particulière pour le camping sauvage. On allait même à la messe le dimanche. Et pas que j'aimais particulièrement ça, mais c'était soit l'église avec ma mère, soit regarder Turbo avec mon père. Et comme je savais qu'après le poulet rôti dominical, on allait déjà se farcir le Grand Prix, j'optais plutôt pour l'église et sa chorale garnie de dames aux reflets violines et aux faniers approximatifs. Ah ouais, le dimanche chez moi, c'était bagnole toute la journée. Mon premier combat contre le patriarcat a été la conquête du Graal qu'est la télécommande. Mais ça m'a pas trop plu tout ça, non. Même enfant, j'ai tout de suite été très hermétique au dogme. Bah déjà, tout ce truc de bien se comporter maintenant, parce que ça va être la teuf, mais dans très longtemps, pff, la flemme, non. Non, moi je crois pas du tout à la vie après la mort. J'y crois déjà pas beaucoup avant, donc... Et puis au catéchisme, ils arrêtaient pas de dire « Jésus a dit, Jésus a dit ». Moi, j'étais une enfant un peu lente, je comprenais rien, je me disais « Mais attendez, je croyais que c'est Jacques qui a dit ». D'ailleurs, les enfants, n'oubliez pas que Dieu nous a donné le libre arbitre. Hein. C'est pas parce que Jésus ou Jacques a dit quelque chose qu'il faut forcément le faire. Surtout si c'est Jacques. chaque langue. Et puis, j'y ai jamais trop cru à leur histoire. Je veux dire, le gars a marché sur l'eau, ouais, enfin, ça m'avait quand même tout l'air d'être un lac avec pas beaucoup de fond. Et comme à l'époque, ils avaient des semelles en poutre, bon, bah forcément, ça flottait, quoi. Et depuis, l'arrivée du stand-up paddle a remis un peu le compteur des miracles à zéro. Après, je veux pas du tout qu'on me taxe d'anticlérical. C'est juste qu'entre Jésus et moi, c'est dressé le mur de l'adolescence et les roulages de pelle avec Stéphane Poutrin dans la sacristie. Bon, c'était sûrement une épreuve que Dieu m'a envoyée pour éprouver ma foi. Mais tout ce que ça a fait, c'est éprouver mon dentiste quand nos appareils dentaires se sont accrochés. Et après, je me suis éloignée lentement de la religion comme on s'éloigne de son meilleur pote de primaire avec qui on n'a plus rien à se dire. Un jour, j'ai quand même tenté une reconnexion spirituelle au Très-Haut, quand j'ai reçu en cadeau le mini Jardin Zen avec mon abonnement premium à Petit Bambou. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu comme essayer de devenir chirurgien en achetant un docteur Maboul. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un mini Jardin Zen, c'est un petit bac à sable en osier avec un mini râteau pour, je cite, « reproduire les gestes d'une technique ancestrale de méditation, le dessin de motifs abstraits. Concentré sur la tâche créative, l'esprit fait le vide et se recentre sur l'instant présent. » Bon, à ma pendaison de crémaillère, la tâche créative, ça a surtout été mon frère qui, galvanisé par sa 11e suce tonique, a confondu mon jardin zen avec une litière géante. Comme quoi, il chie plus dans les bois, mais il lui reste quelques techniques ancestrales pour faire le vide. Bon, tout ça pour dire que pour moi, Jésus, c'est juste un gars qui, comme Stéphane Poutrin, a dit qu'on allait se revoir et qui nous a ghosté. Ce qui prouve quand même une chose, c'est que Dieu a bien fait les hommes à son image.
C'était Amandine Lourdel que vous retrouvez les lundis à 11h25 dans la bande originale, tout comme mon invité Bruno Pecchi dans la bande originale aussi. Bruno, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a un club de foot italien qui vient d'obtenir sa promotion dans une meilleure ligue, on va dire. Et en fait, depuis 65 ans, ce club qui est juste à côté de Naples présente la particularité d'avoir été promu à chaque fois qu'un pape est mort ou a démissionné. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé de cool depuis que le pape est mort ?
J'ai été invité dans cette émission radiophonique.
Bien sûr. Non, mais un truc plus cool que ça.
Non, j'ai vécu des trucs cool en famille avec ma copine cette semaine. C'était très chouette. Mais sinon, en vrai, le fait que le pape meure, peut-être j'ai vu pas mal de vidéos de marrantes sur le pape et tout. Maintenant, j'ai un algorithme un peu avec plein de trucs qui revient. Et il y a des trucs qui me font vraiment marrer, quoi. Je me rends compte un peu de sa personnalité, limite humoristique, quoi. Quelquefois, il faisait des vannes et tout.
C'est vrai ?
Ouais, je te jure, il y a vraiment des moments où il est en pleine messe et il fait une petite blague ou il fait un petit truc.
Moi, le truc cool qui m'est arrivé cette semaine, c'est la découverte du nouveau titre de Théodora. Ça s'appelle Mon casque et on l'écoute tout de suite sur France Inter.
Le soleil se lèvera sur une mauvaise journée. Cheveux froids, un peu comme le jour où je suis née. Il m'aime pas, je l'aime pas, bébé, y'a pas de quoi je suis née. Méchante comme une charme, mais sexy chez moi, c'est né. S'il m'aime pas, je l'aime encore moins, je suis la pire. Elle m'aime bien corps en pis, donc on fera la paire. Mes 6 chiffres sur le contrat, ça fera l'affaire. Baise mes pieds, mais nettoie ta bouche, ça n'est pas ma paire.
C'était Théodora, mon casque dans l'humour d'Inter.
Marine Baousson, l'humour d'Inter, l'hebdo.
Je suis toujours avec l'humoriste Bruno Pecky. Bruno, en ce moment, il y a Mathieu Noël qui est en congé paternité. Je ne sais pas si tu savais.
Ouais,
donc, il est remplacé le matin d'une voix de maître par Bertrand Chamerois. Et jeudi, il nous a parlé de l'actu chaude qui fait la une aux États-Unis. C'est ça.
Écoutez, selon moi, l'actu, c'est une sorte de millefeuille d'événements superposés, chaque couche d'infos faisant oublier l'autre, jusqu'au glaçage qui, depuis lundi, est la mort du pape. Et puis, il y a une couche, celle tout en dessous, vous savez, celle en pâte feuilletée, qui a le seum d'être tombée dans l'oubli des événements, alors que c'est pourtant la tournée du moment outre-Atlantique. Non Patrick, pas celle de Lady Gaga, mais de Jean-Luc Mélenchon, le dit Gaga qui après le Québec poursuit son road trip pour évangéliser les Américains. Dernière date du Méluche North American Tour, New York, où il a reçu un accueil de rockstar.
Ladies and gentlemen, please welcome Jean-Luc Mélenchon.
Wow, Jean-Luc from the Republic, it's me. Entendant cette présentation, je m'attendais à le voir descendre en filin du plafond avec Manuel Bompard sur les épaules, des tirs, des feux de Bengale sur scène, un truc à la Siegfried and Roy, mais non, ça reste une conférence universitaire, donc mise en scène minimaliste, réunion et perspective de la COGIP, une table, deux verres d'eau, un ficus en plastoc et basta. Alors pourquoi cette virée américaine? Déjà parce que là-bas, t'as moins de chances de tomber sur une charogne de journalistes français qui va te parler des dérapages et des provocations de tes députés, ou du compromis d'enquête que lui consacrera France 2 ce soir. Et deuxième raison, Jean-Luc est venu promouvoir son livre « Faites mieux », traduit là-bas en « Now the people », qui se prononce « Nos hippéoples ».
I'm aware of the risk in this time.
Toutes ces discussions des heures durant avec des étudiants pour en arriver au point d'orgue de la virée du leader de The Rebellious France, rencontrer samedi l'étoile montante de la gauche radicale américaine Alexandria Ocasio-Cortez, rencontre qui a failli être annulée, parce qu'au début quand ses équipes lui ont expliqué qu'il allait s'entretenir avec AOC, Mélenchon a pété un câble, il pensait qu'on lui parlait d'Amélie ou d'Ea Castera. Attendez, je vais pas me farcir 10 heures de vol en classe éco et 2000 bornes en camping-car pour parler à la macroniste en combine et au prenne qui chante du Aya Kamura. Mais une fois malentendu dissipé, il est monté dans l'Airbus. Celle qui risque de faire la gueule, c'est justement la vraie AOC, parce qu'on lui a vendu une rencontre avec le leader insoumis français. Et la seule rêve des Américains, c'est le comte de Monte Cristo. Elle s'imagine Pierre Ninet torse nu avec son bandana rouge, ça va lui faire tout drôle quand elle va voir débarquer mon Jean-Luc en velours côtelé gabardine en cuir de la Stasi et cravate Célio. Hello, it's me, nice to meet you. Du Uno Mathilde Panot and Emery Caron. Yes, yes, j'ai vu complément d'enquête. Bon, c'est sympa de rencontrer AOC, mais c'est pas ça qui va faire de Jean-Luc le glaçage du mif de l'info. Bah non, ils vont être d'accord sur tout, il postera un selfie sur Instagram et voilà, ce sera fan d'eux. Ce qui aurait de la gueule, c'est qu'il rencontre Donald, le président des États-Unis. Comment il s'appelle déjà ?
President Trump. Trump ou Trump, comme on dit en anglais. Trump. Trump. On peut dire Trump en français.
Alors disons Trump. Allez, have a nice day.
C'était Bertrand Chamerois que vous retrouvez chaque matin à 7h57 dans la matinale pendant encore une semaine. Bruno, il est temps d'en savoir un petit peu plus sur toi.
Allez.
C'est pour ça que je t'ai concocté un petit jeu. Devant toi, j'ai déposé des cartes. Tu vas les tirer une à une dans l'ordre que tu veux et on va voir ce que ça va t'évoquer. Il faut juste que tu dises ce que tu...
Très bien.
T'as compris.
Je tire mon premier papier. Je l'ai déjà fait en plus. Je suis rodé dans l'exercice. La langue maternelle. La langue
maternelle. Ça va bien, moi.
Vamos, acho que
eu
vou pedir um
espaguete.
E você?
Ok. Você não quer comer em casa, não? Vamos pra casa? Vamos comer em casa, amor, por favor.
Mas por quê, amor? Você tá parecendo assustado.
É porque aqui é muito perigoso.
Perigoso por quê, Gustavo?
Est-ce que tu sais ce qu'on est en train d'écouter?
Ben não, j'essaie de voir d'où ça vient, mais ça doit être un film brésilien ou un truc... Non, vas-y, dis-moi.
C'est un collectif d'humoristes qui font...
Porta dos Fundos.
Exactement.
Ouais, ok, ouais. C'est un collectif d'humoristes brésiliens.
Qui ont 18 millions d'abonnés sur YouTube.
Ouais,
donc c'est énorme.
Ouais, c'est gigantesque.
Très, très suivi.
Leur activité principale, c'est des vidéos sur YouTube. Et souvent, c'est par rapport à la religion catholique, justement. On parlait du pape avant, mais vu que c'est un pays très catholique, le Brésil. Et ils prennent des trucs, ils prennent genre Jésus ou Moïse, et ils prennent un mythe un peu fondateur du christianisme. Et ils font une parodie. Et c'est hilarant à chaque fois, quoi. Et ça vise toujours juste. Et c'est très emblématique de la culture brésilienne, quoi. Ils arrivent à décortiquer la culture brésilienne d'une manière très fine et très drôle. Enfin, c'est.
Toi, tu connais ça et tu arrives à comprendre cette langue.
Ouais.
Parce que ta maman est brésilienne.
Exact, ouais.
C'est quoi l'humour brésilien ?
Bah, je connais pas assez pour te dire, décrire vraiment ce que c'est. Je le connais plus en opposition à l'humour plutôt français, suisse, enfin tu vois, européen, francophone. Il y a beaucoup d'inégalités sociales au Brésil. Donc t'as vraiment une classe riche et une classe pauvre. Et donc il y a beaucoup de blagues par rapport à ça, quoi. Maintenant, là au Brésil, c'est vachement l'un des humoristes les plus connus, il s'appelle Whindersson Nunes, qui est un mec qui vient d'un tout petit village très pauvre, qui est devenu une méga rosta. Et donc lui, il parle de être un nouveau riche. Mais c'est pas un nouveau riche comme on l'entend ici, de « Ah, je vais dans un restaurant et je sais pas trop comment me tenir, mais un peu... » Non, là, c'est vraiment... C'est des écarts tellement grands qu'il y a vraiment des trucs hilarants, quoi.
Et cette double culture, elle l'infuse comment dans ton art, par exemple ?
Ben, j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même vachement joyeux dans l'humour brésilien et de manière générale dans la culture brésilienne que j'essaye de mettre un peu dans ce que je fais. Parce que des fois, et j'adore, tu vois, le côté justement un peu grinçant, un peu pince sans rire français, mais des fois j'aime bien juste avoir le smile, déjà moi, pour quand je fais mon métier, juste être bien et transmettre un peu une good vibe et une bonne énergie, quoi. Et j'ai l'impression, en tout cas les humoristes brésiliens que je connais, c'est vachement ça, quoi. C'est un truc un peu de bonne ambiance, dans la bienveillance, et pas forcément que des trucs genre attaque frontale, qui fait mal, qui pique, pour choquer ou pour faire rire, tu vois. Donc le truc un peu joyeux et souriant, ça j'aime bien le mettre dans ce que je fais.
Un nouveau papier.
Allez. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit ?
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
T'as l'air content d'entendre ça.
Ouais, ça me replonge un peu en enfance, quoi. J'ai pas mémoire de scène particulière ou quoi de Laurel et Hardy, mais je me souviens de Laurel et Hardy parce que j'allais à un ciné-club pour enfants à Genève avec des amis à moi. Mes parents m'avaient inscrit, j'avais des potes avec qui je m'entendais super bien, et je pense, je sais pas, c'était le mercredi après-midi ou le samedi, enfin. Et on allait, c'était une salle de ciné remplie d'enfants. Et c'était un peu les premières sorties aussi sans les parents, quoi. Donc c'était dingue d'aller, de s'asseoir devant un écran de cinéma avec ses potes, ses petites pop-corn. On avait des petits formats pour enfants, enfin c'était trop chou. Et on voyait des classiques du cinéma, mais souvent des trucs drôles, légers et tout. Et on voyait Laurel et Hardy. Et on kiffait, quoi. On se marrait et j'ai des très bons souvenirs de ça. Et je pense que c'est les premiers trucs un peu humoristiques que j'ai vus. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup être spectateur de comédie, ouais.
Un nouveau papier.
Allez. Pulsion de vie.
Je ne veux plus vivre!
Tu veux plus vivre ?
Non ! On n'a pas le droit de dire ça ! Mais la vie c'est beau, la vie c'est magique, la vie c'est merveilleux, la vie ! Tu te rends compte ce que serait notre existence sans la vie ? Hein, tu te rends compte ?
Là, on vient d'entendre Albert Dupontel et Jean-Hugues Lim,
okay,
dans un sketch qui s'appelle SOS Suicide.
Ah, d'accord. Ah, et, faut que je regarde ça.
Et donc, je me suis dit que ça allait peut-être t'intéresser parce
bien sûr,
que
ouais,
toi, t'as un engagement personnel qui est assez important quand même.
Ouais.
Je te laisse en parler.
Je suis ambassadeur d'une association qui vise à la prévention du suicide chez les jeunes en Suisse romande, donc la partie francophone de la Suisse. Et du coup, oui, j'aime bien aborder chaque année. En fait, j'organise un gala d'humour avec des amis humoristes que j'invite à Genève. Et on fait dans une belle salle là-bas un spectacle et tous les fonds sont reversés à l'association. Et donc, il n'y a aucune obligation de parler de suicide ou pas, mais beaucoup d'humoristes le font. Et je trouve ça toujours... moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je suis assez friand de ce genre de sujet. Parce que c'est prendre quelque chose de grave, de sérieux, de triste, et d'en faire quelque chose de drôle, quoi. Il y a comme une vengeance un peu sur des sujets comme ça que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est important de rire de tout.
Et,
donc,
et pourquoi tu t'es particulièrement intéressé à cette cause ?
Déjà, ça m'a parlé quand ils m'ont demandé, parce que ça parle de santé mentale chez les jeunes. Et juste de manière générale, je trouve important de parler de santé mentale, et j'ai l'impression qu'on le fait de plus en plus, et que c'est de plus en plus... ouais, accepter qu'on en parle librement, et ça, je trouve ça génial. Mais chez les jeunes, je trouve vraiment important de prendre ça à la racine. J'ai l'impression qu'étant enfant, les émotions, on les exprime beaucoup. Et on est même... les parents accompagnent ça, généralement. Enfin, ça se passe bien par rapport à ça. Mais après, arrive à l'adolescence, il y a comme un peu un truc, on est entouré d'ados et tout, on va pas forcément exprimer ce qu'on ressent. Alors que c'est souvent à cet âge-là, enfin, c'est un âge très compliqué, où on ressent plein de choses. Et je pense que c'est important, étant jeune, de parler de santé mentale, de parler que c'est normal d'avoir des choses qui se passent pas top forcément dans notre tête, et que c'est ok, il faut juste en parler, s'entourer de professionnels, de personnes bienveillantes et qui sont là pour ça. Donc c'est ne plus rendre tabou ce sujet-là chez cette catégorie de personnes.
Et le faire par le rire.
Et le faire par le rire, ouais. Ouais, le faire par le rire, parce que je trouve, justement, ça dédramatise, quoi. Il y a un truc un peu, la dérision humaine, quoi, en fait. C'est des trucs qu'on a un peu toutes et tous, quoi. Donc ouais, je trouve important de prendre ce biais-là de l'humour.
Un nouveau papier.
Let's go. Inépuisable inspiration.
filez-lui de la ritaline à Trump. C'est pas possible d'être hyperactif à ce point. Il a l'âge de Mireille Mathieu et Joseph Dice. Il peut pas avoir autant d'énergie que ça. Il peut pas faire comme tous les octogénaires. Et puis, je sais pas, prendre un train avec un sac de randonnée par groupe de 30.
Alors là, j'ai reconnu un humoriste brésilien très connu dans le pays qui confond ses cultures. Thomas Wiesel. Thomas Wiesel qui est pour moi une source inépuisable d'inspiration. Enfin, c'est vraiment... Thomas, c'est le mec qui m'a montré que c'était possible d'être humoriste de stand-up en Suisse romande. Et donc, c'était vraiment le premier exemple.
Thomas Wiesel, c'est un humoriste très connu qui a été chroniqueur sur France Inter à un moment aussi. Ouais. Et il a une carrière exceptionnelle. Et en Suisse, c'est vraiment une méga star.
Ouais, il est très connu en Suisse. Et c'est un bosseur aussi acharné.
Il coécrit énormément avec beaucoup d'humoristes de France Inter, notamment.
J'ai la chance d'écrire aussi avec lui. Donc, ça, c'est une chance, c'est un honneur.
Qu'est-ce que ça t'apporte alors d'avoir cette collaboration avec Thomas Wiesel?
De la confiance. Déjà, parce que vraiment, il a ce truc, tu sais ce que c'est, quoi, d'écrire des blagues et de les montrer à la première personne, c'est jamais... c'est assez intimidant, quoi, c'est un truc quand même assez... on jette un peu dans le vide, quoi, donc avoir quelqu'un de confiance qui relie et qui te fait un retour sympa et tout, machin, enfin, c'est toujours cool. Et juste, ce que ça m'apporte, c'est souvent, en fait, quand tu vois la différence entre humoristes, c'est souvent les humoristes très bons, je le vois, hein, j'ai l'impression, c'est qu'ils vont plus loin, quoi. Ils vont au bout de l'idée, tu vois. Donc moi, je peux m'arrêter à ma première blague et lui va vraiment tirer le truc. Et je suis là en mode, ouais, c'est trop fort. Et donc ça me permet de voir un peu comment lui travaille. Et je pense que c'est l'un des humoristes qui travaille le plus, qui écrit le plus et qui écrit le mieux que je connaisse, quoi.
Un nouveau papier.
Réparer les vivants. I act
because I'm broken. Je joue la comédie parce que je suis cassé. Je suis cassé en 1000 morceaux. Et jouer me permet de rassembler tous ces morceaux, d'en faire quelque chose de positif à voir pour le public.
On vient d'entendre Jim Carrey qui parle de son métier. Est-ce que sa façon de voir son travail, ça te parle? Est-ce qu'elle te correspond?
Ouais, jusqu'à une certaine mesure, parce que c'est quand même quelqu'un de très intense, et j'ai vu, tu sais, il y a un documentaire sur un des films qu'il a fait, où il est dans le personnage, où là c'est plus un truc d'acteur, mais il a une manière très intense de voir la vie, j'ai l'impression, et son métier aussi. Donc ça me parle, ce truc de, on en parlait avant, des sujets tristes, sérieux, graves et tout, d'en rire, parce que j'ai l'impression que c'est limite tout ce qui nous reste, quoi. Donc c'est important de le faire. Moi je trouve que c'est un terrain très fertile, les souffrances et les choses qui se passent pas comme prévu pour la comédie, dans la mesure où ça nous fait pas mal d'en reparler, de le refaire. Mais je comprends ce qu'il dit, c'est juste peut-être au quotidien ça doit être dur d'être Jim Carrey, quoi. Ou d'avoir été Jim Carrey, en tout cas dans un moment de sa carrière ou de sa vie, mais je sais pas maintenant comment il est, mais pour voir un peu quelques interviews de lui ou quelques documentaires sur comment il travaillait, ça devait être compliqué dans sa tête. On parlait de santé mentale, je sais pas si c'est la meilleure façon d'aborder un métier comme il le fait, quoi.
Allez, un dernier petit papier.
Allez, parfait. Ah bah c'est le dernier, tout simplement. L'appel du froid.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer.
Alors ça, c'est Robert Charlebois, sa chanson qui s'appelle « Je reviendrai à Montréal ».
Ouais.
Pourquoi Montréal? Pourquoi on t'a mis cette chanson, selon toi?
Bah écoute, parce que j'ai habité là-bas, j'ai étudié à Montréal.
Tu voulais faire l'école du rire de Montréal,
à la base, ouais.
Qui est très très connue.
En fait, ouais, exact. Montréal, c'est une ville qui m'a toujours attiré. Alors j'ai de la famille là-bas, j'ai mon oncle, ma tante, des cousines et tout, mais c'était pas pour des raisons personnelles, c'était vraiment pour la culture, quoi, et l'humour principalement. Moi, un de mes humoristes préférés, c'est Roman Frécinet. Donc, quand j'ai commencé à entendre parler de lui, il était, je pense, encore à l'école où il venait de sortir. Donc, j'ai découvert l'existence de cette école à travers un humoriste que j'admire. Et donc, j'ai été admis au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et je suis parti là-bas et j'ai fait une année. C'était une formation qui devait durer 3 ans. Et finalement, j'ai pas trouvé forcément... pas ce que j'attendais, mais j'ai aimé Montréal pour étudier, pour vivre une année. J'ai des très bons contacts là-bas. C'est à chaque fois un plaisir d'y retourner. Mais je me voyais pas vivre... et faire ma carrière là-bas. Donc
t'es revenu ici, t'as fait du stand-up.
Donc je suis revenu, j'ai fait du stand-up, et me voilà ici dans la meilleure émission radiophonique au monde.
Exactement, merci de le dire, ça me fait plaisir, parce que
normal.
Les gens oublient parfois de le dire.
Non, il faut le rappeler.
Il y en a une, en tout cas, qui elle aussi est venue dans cette émission, et elle n'a pas dit que c'était la meilleure émission du monde, mais je pense qu'elle l'a pensé intérieurement.
Oui, sûrement.
Évidemment, c'est Rosa Burstein, et elle a profité de sa chronique de cette semaine pour faire une énorme annonce dans Zoom Zoom Zen.
Je ne regarde jamais de porno, sauf quand je suis filmée.
Voilà, pas en train de faire du porno, mais en train d'en regarder. Je lance bientôt la saison 2 de mon émission sur YouTube, L'un dans l'autre, où j'invite des amis à réagir avec moi à des films porno que le spectateur, lui, ne voit pas. Marie De Brouwer fera partie des guests. Elle a exigé des gangbangs, du Big Black Cock, de la Sodo et des scénarios avec des daddy issues, dont l'acteur principal ressemble à Cyril Lacarrière. Exigeante, Marie, mais en fait, ça se trouve assez facilement. J'ai une deuxième annonce à vous faire. Je suis enceinte.
Oh,
merci.
Mais
merci.
Bravo. Félicitations.
Ce n'était pas suite à un gangbang, je rassure tout le monde. Enfin, je crois pas. Enfin, non, les dates correspondent pas. Ça fait 3 mois et demi, voilà pourquoi je sentais le vomi. Pas uniquement parce que je m'habille en friperie. Et c'est aussi pourquoi je baillais beaucoup. Donc stop la susceptibilité, Quentin, il faut pas le prendre personnellement. Bien sûr que c'est passionnant quand tu parles de Formule 1. Et quant à la vie sexuelle de mon couple, on est loin de Pornhub. Dès qu'on a appris la bonne nouvelle fin janvier, on s'est mis en pause. Break du cul. Parce qu'avant, on n'en pouvait plus. On baisait avant les jours d'ovulation pour maximiser nos chances. On baisait avant, on baisait après. Bref, tous les jours, on était en burn-out. Et mon copain m'empêchait d'utiliser le sextoy. Il me disait non. Les vibrations, ça va éjecter ma précieuse semence. Donc on copulait dans un but reproductif, mais sans aucun horizon d'orgasme pour moi. Notre enfant n'est pas le fruit du plaisir, mais d'un acharnement méthodique de mormons adeptes de J.D. Vance, catégorie Amish. Je mettais une robe à fleurs, lui se laissait pousser une barbe dégueulasse, il mettait un chapeau de paille et c'était parti pour 3 minutes chrono en missionnaire, sous les draps, dans le noir, en demandant pardon pour notre péché de chair et le salut de nos âmes. Pendant les 3 premiers mois de ma grossesse gériatrique de vieille peau de 35 ans, Dixit, bah la nature, hein, cette salope misogyne, j'ai pris de l'aspégique et des ovules de progestérone matin et soir. Deuxième raison de pas baiser, ni le matin, ni le soir. Le matin, avant de mettre l'ovule, j'étais trop fatiguée. Puis une fois que je l'avais mise, on n'allait pas mélanger avec du sperme, faut que ça pose un peu comme une pâte à pizza. Voilà, si vous rajoutez du sperme, c'est trop salé. Non. Puis mon mec avait peur que sa bite au contact de la progestérone devienne une chatte, que des lèvres apparaissent sur son gland. Il est déconstruit, mais pas à ce point-là. Par contre, ça pourrait donner un bon film de Quentin Dupieux pour le Festival de Cannes. Le soir, on aurait pu baiser avant que je mette l'ovule, mais j'étais trop fatiguée. L'ovule était devenu mon rempart, ma ceinture de chasteté. Trottoir. Trop tard, j'ai mis l'ovule. Formule beaucoup plus moderne que j'ai mes ragnagna. Après la fameuse migraine des années 80, les parcours de fertilité aujourd'hui, la sexualité à l'épreuve des perturbateurs endocriniens, des téléphones rangés dans la poche du jean, bien au chaud contre vos coucougnettes, messieurs. J'ai reçu un message, ah non, c'est mes spermatozoïdes qui gémissent. Tout ça m'a donné envie de réaliser mon film porno progressiste parce que les schémas traditionnels d'excitation doivent changer. La belle-mère avec un accent russe qui déboutonne la braguette de son beau-fils revenu de la guerre sous l'évier dans la cuisine, non. Oui, à des corps, des scènes réalistes. Un homme pas très musclé qui murmure tendrement à sa femme, pas du tout musclé non plus. Allez chérie, on va pas se laisser abattre par les fausses couches, on y retourne, je t'aime, courage. Et là on clique, non ?
Rosa Verstein qui parle dans un micro tout en fabriquant des épaules et un petit ventre. Voilà, un exploit à retrouver chaque mardi à 16h55 dans Zoom Zoom Zen. Et c'est vrai que Rosa, elle attend son bébé comme d'autres attendent l'amour. Alors direction les 60s pour cette chanson qui nous emmènera vers la chronique vintage de la semaine. On écoute Charles Aznavour sur France Inter.
Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleurent le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que je respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes 20 ans. Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. Je t'attends. Viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps. Écoute, je t'attends. mon rêve inconnu. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien c'est l'amour. Pour que mes jours se transforment et que vraiment ma vie par toi prenne forme à chaque instant. Parce que le vide monte avec mon sang. Comme un peintre je t'invente et je t'attends. Mes doigts par petites touches font tes dents. Avant de croquer ta bouche éperdument. Mais ces rêves ne me laissent que tourment. Car je traîne ma détresse et je t'attends. Je t'attends. Viens, viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps, le temps, le temps est court. Je t'attends, toi, mon rêve inconnu. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien, c'est l'amour.
Charles Aznavour sur France Inter, une de mes chansons préférées du monde entier. Chanson sortie au début des années 60, comme la chronique que l'on va écouter maintenant en se demandant...
L'humour, c'était mieux avant.
Accusé, levez-vous.
Chers collègues et invités multisexuels, cher public, énigme sexuelle, bonjour.
Qui celle qui a joué un t-shirt I love les roubettes?
Maintenant vous ne bougez plus, vous mangez les pâtes debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs, papa arrive.
En 1962, France Inter n'était pas encore France Inter, mais la RTF et Paris Inter. Et sur ces antennes, déjà, on y donnait des chiffres, des sondages, des statistiques. Trop de statistiques? Oh, à vous de juger.
Excusez-moi de vous déranger, monsieur le directeur.
Je vous en prie.
Vos services ont établi, je crois, un très grand nombre de statistiques.
C'est exact.
Oui, vous avez fait les niveaux de vie, mmh. Les farces et attrapes.
Le fromage blanc.
L'anthracite.
Les brioches.
Le plutonium, mmh. Etc., etc. Pouvez-vous me dire quelle est votre dernière statistique?
Le mot de Cambronne.
Qu'est-ce que vous dites?
Je vous dis le mot de Cambronne.
Ah.
Oui, c'est une statistique extrêmement intéressante. Ah. Savez-vous qu'entre juin 1961 et janvier 1962, il a été prononcé 2 713 000 fois le mot de Cambronne dans le département de la Seine, alors que pour la même période, on n'en a dénombré que 17 dans le Puy-de-Dôme.
Oh, eh bien, cela prouve que les Auvergnats sont plus polis que les Parisiens.
Non, pas du tout, mademoiselle. Pour nous autres statisticiens, cela prouve deux choses. Premièrement, que l'époque napoléonienne a laissé des traces plus profondes en Île-de-France qu'en Auvergne. Deuxièmement, que le Parisien est nettement plus irritable que l'Auvergnat. Enfin, son coefficient d'irritabilité est de 9,7, alors que celui de l'Auvergnat n'est que de 2,3.
Et quel est l'intérêt de cette statistique-là?
Alors là, je pourrais vous le dire qu'à la fin de l'année, lorsque nous aurons fait la statistique de toutes nos statistiques.
Ah, parce que vous faites également des statistiques sur vos propres statistiques.
Ah oui, mais c'est indispensable, indispensable. Sinon, comment voulez-vous savoir quelle est la statistique qui intéresse le plus le français moyen, si c'est le plutonium ou le fromage blanc?
Oh, ben, à mon avis, c'est le plutonium.
Eh ben, pas du tout, mademoiselle. C'est le fromage blanc, à 98%.
De matière grasse?
Non, de suffrage exprimé.
Oh, c'est considérable.
Ah, vous pensez, on a tout de suite signalé la chose au ministère de la guerre.
Pour les vexer?
Non, pour les prévenir. On leur a dit, si vous faites des bombes au plutonium, vous aurez deux Français avec vous, mais si vous les faites au fromage blanc, vous en aurez 98. C'est la statistique.
Oh, c'est stupéfiant.
Ah oui, c'est toujours stupéfiant.
Et vous ne vous trompez jamais?
Jamais, mademoiselle.
Tiens, pourtant, je me souviens qu'au moment de l'élection du président des États-Unis, vous aviez donné M. Nixon gagnant à 10 contre 1.
C'est exact.
Alors que c'est M. Kennedy qui a été élu.
Absolument pas.
Comment, M. Kennedy n'est pas président des États-Unis?
Ah non, il ne peut pas. D'après la statistique, c'est mathématiquement impossible.
Mais enfin, tout le monde le sait, c'était dans tous les journaux.
Les journaux se trompent à 97%, mademoiselle.
Mais dites-moi, mais vous m'inquiétez.
Oui.
À votre avis, qui a découvert l'Amérique?
C'est Maurice Chevalier.
Comment? Je croyais que c'était Christophe Colomb.
Ah oui, moi aussi je croyais, oui. Mais on se trompait, mademoiselle. D'après le dernier sondage effectué dans les écoles de 3 départements du Sud-Ouest, c'est Maurice Chevalier. Et en deuxième position, ex aequo, Marco Polo, Lafayette et Marlon Brando.
Et Christophe Colomb?
C'est l'inventeur de l'œuf. Un statisticien, ce n'est pas un homme, c'est une machine à calculer 4713.
Qu'est-ce que vous dites?
Rien, je pose 2, je retiens 3.
Eh bien, je vous remercie, monsieur le directeur.
Il n'y a pas de quoi, plus 15%.
Monsieur le directeur?
Oui, qu'est-ce que c'est?
C'est l'heure de la douche.
Ah, c'est exact. Mademoiselle, veuillez noter, pour terminer, un statisticien parfaitement équilibré prend en moyenne 8 douches froides par jour. En avant, marche!
8 C'était André Gilles et Anne-Alexandre, 1962, dans Dimanche Variété. T'en as pensé quoi, Bruno?
Franchement, je me suis bien marré, quoi. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas eu... J'ai jamais vu un sketch sur ce sujet-là, des statistiques. Et on a toujours, quoi, les sondages, les trucs. Enfin, c'est très actuel. Je trouve ça dingue à quel point... Enfin, c'est ça qui est génial. Je sais pas si c'est que cette chronique-là était moderne ou si nous, qui n'avons pas évolué, mais en tout cas, l'irritabilité
actuel,
des Parisiens, c'est toujours la même chose. Le truc, les faits alternatifs, un peu, quoi. Le truc, en fait, ce qui compte, c'est pas la réalité, c'est ce que les gens pensent. Donc ça, c'est dingue que ça soit déjà... Enfin, ouais, non, j'ai trouvé vraiment super cette chronique. Et ça donne envie de développer un sketch sur les statistiques, parce que c'est vrai que c'est dingue.
Bah écoute, c'est peut-être un challenge pour ta prochaine chronique
exact,
dans la bande originale.
Allez, let's
Bruno, lors de ton dernier passage ici, tu nous as dit que tu lisais beaucoup la presse pour tes chroniques.
Ah, oui.
C'est l'occasion de vérifier si tu es au fait de l'actualité brûlante du moment. Très importante. Cette semaine, il y a 150 nouveaux mots qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire, comme par exemple Léon Marchand, urbex ou préménopause. Mais il n'y a pas celui dont nous parle lemonde.fr, qui est la merdification. Alors la merdification, c'est un processus inexorable de dégradation de la qualité des services sur les plateformes numériques. Toi, quel mot que tu as inventé devrait rentrer dans le dictionnaire selon toi?
Alors c'est pas un mot que j'ai inventé, mais c'est un mot suisse, et à chaque fois que je le dis, les gens me comprennent pas, et je pense même que je l'ai déjà dit en chronique, et tout le monde m'a regardé en mode pourquoi t'as dit ça. C'est le verbe s'encoubler.
Jamais entendu de ma vie.
Et en fait, s'encoubler, c'est trébucher, quoi.
D'accord.
Donc c'est quand tu t'encoubles, et je le trouve tellement imagé, ce mot, et plus beau que trébucher, je le trouve un peu trop agressif. Encoubler, je trouve, il y a un truc un peu doux et un peu drôle, et on rigole, mais de manière bienveillante, à un encoublage, quoi. C'est-à-dire, ouais, je trouve
c'est,
ça beau.
C'est assez rond, ça roule, on
ouais,
se voit rouler,
ça,
quoi.
Et j'ai l'impression
alors que
le mot...
trébucher, bah, ouais. En même temps, il y a une petite...
C'est vrai, mais je le trouve plus dur, quoi.
Okay.
Je le trouve plus dur, et je trouve que le mot encoubler s'encouble lui-même. Enfin, non, là, je suis inspiré par les trucs des statistiques, je vais continuer.
Mais à 99%, oui, voilà, les gens sont d'accord avec toi, sache-le. Le site l'actu.fr nous annonce que pour revenir à une vie normale, un gagnant de 190 millions d'euros à l'euro-million est retourné vivre chez sa mère. Si tu gagnais 190 millions d'euros, Bruno Pecky, qu'est-ce que tu ferais pour te sentir normal?
Je pense que je ne reviendrai pas chez ma mère, parce que je ne pourrais pas être normal. Déjà, ma mère le saurait, donc...
elle ne serait
là,
pas normale.
Voilà, c'est ça. Les voisins le sauront aussi que je suis revenu. Non. Non, je pense que je ne le dis pas.
Je pense, pas.
Ouais,
c'est vraiment. T'arrives à garder ce secret.
Mais je pense que je le dis vraiment aux personnes très, 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 très proches, en qui j'ai une confiance absolue. Et vraiment de.
Est-ce que tu me le dirais à moi, par exemple?
Évidemment.
Bien sûr. Ça me fait plaisir. J'ai lu dans letemps.ch, à l'encontre de sa propre loi,
bah
oui, comme t'es suisse, je vais un petit peu te rechercher ailleurs. À l'encontre de sa propre loi, le canton de Vaud en Suisse a allégé les impôts de riches contribuables pendant 13 ans. Qu'est-ce que toi, tu fais à l'encontre de ta propre loi intérieure?
Oula, alors bon, déjà. Étant suisse, mais pas riche, ça ne change absolument rien pour moi, cette information. qu'est-ce que je fais? Moi, je sais qu'un truc que j'aimerais beaucoup dans ma vie, et je mets un point d'honneur à ça, et je le fais absolument pas, ou je le fais pas assez, j'essaye d'être vraiment présent, quoi, tu sais, et même dans notre métier qu'on fait, quand on est sur scène, mais dans la vie tous les jours aussi, quoi, d'être dans l'ici et maintenant. Et c'est un truc où à chaque fois, tu sais, avec mon addiction au téléphone, au réseau, où j'écoute de la musique quand je marche, où je suis pas... Et souvent, à la fin de la journée, je me dis « Putain, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment été présent cette journée-là » Et après, je vois ma statistique de nombre d'heures passées sur mon écran et je me dis « Ah, j'ai peut-être perdu des heures que
t'es j'ai récupéré. » T'es encore dans les statistiques?
Ouais,
ça,
bah voilà.
Ça t'a vraiment marqué pendant tout... Ouais, c'est impressionnant.
Bah, je pense qu'il y a 50% de chances que je devienne statisticien.
J'adore. J'ai lu sur Slate que la crème solaire préhistorique, ça existait puisqu'il y a 40 000 ans, nos ancêtres se protégeaient déjà du soleil. Bon, selon toi, de quoi ils auraient dû se protéger un petit peu mieux quand même?
Bah franchement, justement, je réfléchissais, je me dis pas grand-chose, quoi. J'ai l'impression que peut-être qu'ils vivaient une vie plus en accord, justement, plus dans l'instant et plus en accord avec la nature, et tu vois.
Ils étaient vraiment présents.
Ouais, ils étaient vraiment présents, et peut-être que c'est plutôt nous qui avons à apprendre d'eux que l'inverse. Donc restez comme vous êtes, les gars, franchement, changez pas.
Je vais juste dire, j'ai quand même lu tout l'article, et au début, l'article, ils disent, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait du soleil et que ça pouvait les brûler, ils ont vraiment mis des vêtements. Et je trouve ça génial que la première crème solaire, ce soit des habits.
Ouais.
Je trouve ça vraiment génial. La semaine dernière, la bande originale recevait Bérénice Bejo, et ça a été l'occasion pour Mélodie Fontaine de faire un point sur sa vie, et je vous casse pas que le constat était pas folichon.
Alors moi, comme Bérénice, avec ses pieds, je me néglige un peu, faut le savoir. Pas en termes d'hygiène, hein, même si j'ai bien vu qu'on m'a installé loin des invités. C'est pas de ma faute, d'accord? J'ai une sudation abondante et je suis intolérante à l'aluminium. Non, je me néglige dans le sens où je ne prends pas soin de ma personne. Mentalement, déjà, je me respecte absolument pas. Je passe mon temps à me comparer aux autres et je dis toujours oui. Donc du coup, bah, je fais des selfies et j'ai mal aux fesses. Mais physiquement, c'est physiquement. En termes d'estime de soi, c'est pire. C'est le grand laisser-aller, là. J'ai pas fait de sport depuis des mois. Et par des mois, j'entends des années. Et par des années, j'entends jamais, en fait. Jamais. Je bois comme un chameau, mais un chameau en week-end d'intégration. Donc, voilà.
C'est
bien, ça pas m'arrêter. Non, et je mange autant de fromage que Rémi de Ratatouille et Gérard Larcher réunis. Donc vraiment, forcément, faut pas s'étonner. Faut pas sortir de Saint-Cyr ou de Bethame pour s'apercevoir que le corps change. Hein. Ah bah ouais. Le faciès ne déroge pas à la règle non plus, comme vous pouvez le voir. Ça se fissure de partout, on dirait une salle d'école. Quand j'étais plus jeune, je me mettais des petits points de crème sur les pattes d'oie, là, au bord des yeux. Mais là, c'est plus des pattes d'oie, c'est des empreintes de dino. Donc, le tube y passe. Hein, ma salle de bain en volume de crème hydratante, on dirait la chambre à coucher de Puff Daddy. Alors, évidemment... Non, mais j'ai de la chance que mon mec me dit « Ça me va bien, les rides, qui m'a jamais trouvée aussi belle, nanana, on vieillit ensemble, j'aime bien les témoignages du temps, gna gna gna, le con. » Je peux pas lui faire confiance. Non, mais il est tellement bigleux, il m'a confondu avec sa maîtresse, le poids. Donc, vraiment, voilà... Là, le vrai problème que j'ai en ce moment, c'est les paupières. De base, j'ai les yeux qui pendouillent, mais là, ça tombe tellement que ça va commencer à s'entendre à la radio. J'ai les paupières si souples que ça va me couvrir les lèvres. Vraiment, celles d'en haut. Alors, non mais quand même, qu'on n'ait pas l'image. J'essaye de trouver une solution, mais on n'en voit pas le bout, comme dirait Daniel chez l'urologue. Et en plus, je vais vous dire, ça irait si les deux paupières baillaient de concert. Mais là, non, il y en a une qui est plus fatiguée que l'autre. C'est celle-là. On dirait que je fais un clin d'œil en permanence, comme tonton à l'apéro, tu sais. En arrivant ici, Old Dave qui m'a demandé un autographe, il m'a pris pour Yvan Attal. Bon. Je lui ai fait, hein. Je lui ai fait, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Je dis toujours oui, donc. Hein. Non, mais je vous le dis, on a. J'ai consulté un spécialiste en chirurgie esthétique, une pointure, comme on dit dans le monde du pied. J'ai choisi le meilleur, mon père. Parce que mon père est dermato-médecin esthétique. Je le crie pas sur tous les toits pour trois raisons. La première, c'est que je crie pas souvent parce que je suis pas complètement timbrée. La deuxième, c'est qu'en général, les gens que j'ai pas vus depuis un moment me donnent bizarrement des news quand je dis ça. Hein, c'est moi, Bertrand, on s'est croisé en 98 à la cantoche du plateau de tournage de Terre Indigo. Jouer le palmier sur le plateau numéro 3. Je t'ai dit bonjour de loin. Ton père est toujours chirurgien. Voilà. Et la troisième raison, c'est que je suis pas la meilleure pub ambulante pour mon rep. Parce que je fais rien dans son business. Pas par philosophie ou parce que mon mec adore les fissures, mais parce que j'ai peur des aiguilles. Et j'ai peur de trop faire. Alors là, je vais essayer la paupière droite, mais si ça marche trop, j'ai peur que le sourcil droit reste dressé tout le temps. Tu sais, je serais suspicieuse en Colombo, tu sais. Ma femme me dit toujours, j'ai vraiment peur de ça. Alors, mon père fait aussi de la reconstruction esthétique, mais bon, là, pour ma part, on n'est plus sur la construction, donc j'irai pas plus loin que les picouses. Vous voyez, quand il s'agit du temps, je pense qu'un temps qui marque est préférable qu'un temps qui passe. Bon, je vous laisse, je vais prendre un café avec mon père, j'ai quand même deux, trois trucs à lui demander.
C'était Mélodie Fontaine, qui est encore bien, moi je trouve. Je la trouve pas mal. On la retrouve dans la bande originale chaque lundi à 11h25, et puis on la remercie pour cette chronique qui nous rappelle quand même que c'est génial d'être jeune. Allez, on écoute Fontaine d'ici. It's amazing to be young sur France Inter. It's the I wake up and it's C'était Fontaine d'ici, It's Amazing to be Young. Et c'est pas mon invité Bruno Pecky qui va me dire le contraire. Hein. Bon, pour moi, c'est un petit peu loin, hein. C'est la jeunesse.
Mais non,
tout ça.
Pas du tout.
Tu dis ça parce que t'es à côté, que t'es gentil. Mais non, quand même, je le sais.
Marine Baousson, l'humour d'Inter, l'hebdo, c'est toutes les semaines.
Oui, enfin, c'est une hebdo, du coup, ouais.
Oui, voilà, c'est une hebdo, finalement. Une des actualités qui a fait la une ces derniers temps, c'est évidemment que des stars se sont envoyées en l'air. Ça a un petit peu atterré Alexis Le Rossignol, qui nous en a parlé dans la matinale.
Alors, lundi dernier, la chanteuse américaine Katy Perry est allée dans l'espace avant de revenir sur Terre, 11 minutes plus tard. Le temps qu'il nous faut à nous, les bouseux, pour faire cuire des nouilles. Parfois, je me fais des pâtes, je reste devant comme ça, je regarde l'eau bouillir, parce que je me dis, je vais pas me mettre à faire un truc, j'ai pas le temps. Ben, j'aurai le temps d'aller dans l'espace. C'est fou, non ? La vie passe tellement vite, on ne devrait pas rater les opportunités comme ça. Alors, avant son départ, Katy Perry a expliqué qu'elle allait dans l'espace pour inciter sa fille à croire en ses rêves et à ne jamais se fixer de limites. Elle doit avoir des difficultés de compréhension, sa fille, hein, pour que sa mère ait besoin de faire un truc aussi dingue, pour lui expliquer un truc aussi con. On peut pas lire la chimiste comme tout le monde ? J'ose pas imaginer la prise de tête quand elle voudra lui parler des règles. C'est là que tu vois que la vie des stars, c'est quand même pas toujours simple. Alors, elle n'est pas partie seule, elles étaient 6, animées par une volonté commune, faire de la place pour les femmes de demain. C'est fou comme la propension à se croire utile augmente avec la notoriété. Il y avait notamment la femme de Jeff Bezos dans la navette. Elle pourrait juste dire à son mari de mieux payer ses employés pour commencer par aider les femmes d'aujourd'hui. Mais non, elle préfère miser sur plus tard, comme les vieux qui attendent que leurs enfants aient 50 ans pour leur faire une donation. Malin. Chaque jour dans le monde, il y a des millions de personnes qui se battent pour que la place des femmes évolue, sans moyens parfois. Et elles, elles se font leur petit vol entre copines, habilement raccrochées à la cause féministe. Ça doit être pénible parfois quand t'es une femme de se farcir des porte-paroles comme ça. Alors je dis pas qu'elle est pas sincère, Katy Perry. Elle est juste conne. Hein, je déconne. Mais à un moment donné, on se pose des questions. C'est bien d'assumer ses délires perso. Ces délires perso, pardon, sans chercher à les rattacher à une cause qui viendrait les justifier. Parce qu'il a bon dos, le féminisme. Après, c'est vrai que quand on est suivi par des millions de personnes qui aiment tout ce qu'on fait, on doit finir par se persuader qu'on a toujours des idées géniales. Eh oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des likes sur n'importe quoi. Hier, je suis tombé sur les vidéos d'un influenceur anglais qui va à la rencontre de mendiants en Inde, qu'il déshabille, qu'il lave, qu'il rase, à qui il coupe les cheveux, puis donne à manger, puis à qui il donne un pantalon propre, des chaussettes neuves, des chaussures et une belle chemise blanche. Et c'est fascinant de voir à quel point on ne voit plus la beauté des gens quand ils sont à la rue. Et c'est magnifique de la voir réapparaître, en plus avec la petite musique d'émotion qui va bien par là-dessus. Bon, à part si t'as pas de cœur, tu mets un like. Hein. Sauf qu'à la fin, il les remet à la rue. Et ils sont là, sur le trottoir, habillés comme s'ils postulaient chez Darty. Mais ils peuvent plus faire la manche, ils sont trop propres, ils ont perdu 8 jours. Et l'autre, il continue à vivre sa vie d'influenceur sur le dos de ceux qu'il prétend aider. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais la terre et l'espace aussi.
C'était Alexis Le Rossignol. Bruno Pecky, on se ferait pas un petit bilan de ma semaine ?
Allez, avec grand plaisir.
Mardi prochain, on va fêter un anniversaire très important. Alors oui, c'est vrai, il y a les 50 ans d'Angoune, c'est pas faux, bon anniversaire Angoune, mais ce sera surtout les 80 ans du tout premier vote des femmes en France. Et là, peut-être que vous vous dites, quoi, ça fait seulement 80 ans ? Bah oui, ça fait seulement 80 ans. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, je vous propose de vous résumer le droit de vote des femmes en France, mais en 3 minutes. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Et pour vous parler du droit de vote des femmes, il faut savoir déjà à quel moment il y a eu le droit de vote tout court. Et là, je vais vous donner un indice, c'est à la suite d'un événement qui a fait que la France a été connue partout dans le monde. Ah, non, pas celui-là, moi je parlais de la Révolution, bon c'est bien aussi. Hein. Alors Louis XVI, quick, guillotine, oh Louis, t'as perdu la tête ou quoi ? Et ensuite on donne donc le pouvoir au peuple, enfin la moitié du peuple, le peuple des hommes, c'est beau hein ? Bof. Alors là il y a Olympe de Gouges, une intellectuelle française qu'on considère aujourd'hui comme la première militante féministe connue, en gros c'est Sandrine Rousseau avec une perruque, qui dit... Excusez-moi de déranger ces messieurs pendant qu'ils font pipi debout, mais serait-il possible, s'il vous plaît, de nous aussi donner notre avis par les urnes ? Alors les hommes, ils aiment pas trop qu'on leur casse les urnes, alors très poliment, ils répondent « Hop là, guillotine !» Wow. Ensuite, il faut attendre une centaine d'années pour que se réveillent aux États-Unis ou en Angleterre des mouvements radicaux de suffragettes, donc des femmes qui luttaient pour obtenir le droit de vote. Et le droit de vote a été accordé aux femmes dans beaucoup de pays après la Première Guerre mondiale, mais pas en France. Pourtant, en 1919, les femmes ont failli avoir le droit de vote parce que Aristide Briand, Shiny Aristide, pour les bilingos, c'est son nom de drag queen, il a fait voter le droit de vote des femmes aux députés. Mais bon, vous connaissez le principe en France, hein, pour qu'une loi passe, il faut que que le Sénat et les députés soient d'accord. Et en 1919, le Sénat, il a retoqué le projet de loi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, le Sénat était composé quasiment uniquement de vieux mâles blancs rétrogrades, alors qu'aujourd'hui... aussi. 1925, un nouveau projet de loi est présenté au Sénat. Retoqué. Là, il y a un député qui s'appelle Monsieur Duplantier qui fait un discours dans lequel il dit à la tribune « Ces dames voudraient être députées ? Eh bien non, qu'elles restent ce qu'elles sont, des putains. Oh. » Ouais, t'as eu une très bonne réaction de TF1 et j'ai beaucoup aimé. Députés, des putains, voilà, ça sonne, c'est vrai, hein, c'est, ça fait un peu grand corps malade du pauvre. Mais en revanche, Duplantier paie la merde, ça rime moins, mais je trouve que ça sonne mieux. Voilà, c'est bizarre, c'est perso. 1932, un nouveau projet de loi est présenté au Sénat. Retoqué. Alors là, les suffragettes ne se laissent pas faire, et notamment ma préférée en suffragette, ma chouchoute, elle s'appelle Louise Weiss. Elle a notamment organisé un événement à l'hippodrome de Longchamp où des femmes ont envahi la piste avec des affiches où c'était écrit « La femme veut voter ». Et comme c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on a une archive audio ce jour-là. Et écoutez, comme déjà, à l'époque, les féministes étaient des femmes pleines de haine, très agressives, avec de la mousse qui sort de la bouche, comme ça, écoutez.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger.
Elles sont énervées depuis toujours, les féministes. Bon, en tout cas, Louise Weiss, son arme, c'est l'ironie. Alors, par exemple, en termes d'ironie, pour répondre à un député qui a dit « Mais si les femmes votent, elles n'auront plus le temps de repriser nos chaussettes !» Eh bien, elle a offert des chaussettes reprisées à tous les députés. En fait, pendant 4 ans, elle a fait des coups comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle avait des idées qui étaient un peu rigolotes. Alors, tout le monde se moquait d'elle, elle le savait. Mais elle prévenait la presse, qui en parlait. Et du coup, bah, ça créait des buzz. Des buzz qui faisaient avancer les choses. C'était un petit peu l'anti-Cyril Hanouna. Voilà. Alors, assez globalement, il faut se dire quand même que la gauche, à ce moment-là, a pas mal envie de donner le droit de vote aux femmes. Et ça tombe bien, puisque la gauche arrive au pouvoir en 1936. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils pensent que ça ne va pas servir leurs intérêts. Ils pensent que les femmes vont voter à droite. Donc, dans l'idée, donner des droits aux femmes, bien sûr, évidemment, mais pas si ça les dessert. Et puis, 39-45 est arrivé. Les femmes ont eu un rôle tellement important dans cette guerre que leur donner le droit de vote était une évidence. Elles l'ont même obtenu en 1944, avant la fin de la guerre. Alors, il y a 80 ans tout pile, le 29 avril 1945, pour la première fois, les Françaises se sont rendues aux urnes et elles ont voté. Et c'est comme ça que 30 ans plus tard est née Angoune. C'est fascinant l'histoire, hein ? Allez, bon anniversaire à nous toutes et puis surtout à toi, Angoune. C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission qui vous donne envie d'aller vous abonner au fil de podcast L'Humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci Bruno Pecky,
merci à toi,
d'avoir
Marie.
Été mon invité.
Avec grand plaisir.
Tu continues le rodage de ton nouveau spectacle à la Petite Loge à Paris les 29 avril et 28 mai. Le 25 juin, tu seras au Point Virgule à Paris. Et puis du 18 au 21 juin, tu seras à l'Espace Gerson à Lyon. Allez découvrir ça, évidemment, de toute urgence. Et merci d'avoir été là.
Merci à toi, c'était un plaisir.
C'était L'Humour d'Inter, l'hebdo, une émission qui a été préparée avec, je dirais, Panache, par Louise Tempero, documenté par Hervé Evano et l'antenne INA. Lucie Lemarchand était à la réalisation et aux poches à douille. Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale et c'était Tilaï Ravu à la technique.